Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 14 janvier 1987.
Aristote. C'est ça qui est très très curieux. Mais partir de là que toutes les confusions ont été faites. Il y a ces deux expressions chez Aristote, hein, qui est le grand-père auquel il faut tout le temps revenir. Il ne faut pas répéter Aristote, mais c'est quand même une source. Il y a Parménide qui est source.
C'est un fait, ça. C'est même très étonnant de voir que depuis 5 ans,
C'est le sens très extraordinaire de ce qu'il y a de plus premier, de plus fondamental. Ceci est le tuon qui est remis en lumière. Alors, dans Aristote, il y a deux aspects. À la fois, il dit le tuon, legetai polakos, donc ce qui est dit de multiples manières. Et l'être est l'un. Comment et l'un devient propriété de l'être, c'est-à-dire qui caractérise l'être. La propriété, c'est ce qui caractérise. La propriété d'un être, c'est ce qu'il caractérise. Vous dites par exemple, hein, la propriété de l'homme, c'est d'être capable de rire. C'est ce qui manifeste l'homme. Vous n'avez jamais vu un singe rire. Regardez un petit singe. C'est délicieux le crâne d'un petit singe. Mais ne regardez pas trop sa figure. Le crâne, c'est délicieux. Mais regardez un petit singe qui rit. Hein? C'est comme la vache qui rit. Quoi. Ça fait rire, mais ça ne rit pas. C'est extraordinaire. Vous voyez la différence du léguétail et du taureau. L'animal ne rit pas, seul l'homme rit. La capacité de rire, c'est la propriété. C'est ce qui manifeste. Qu'est-ce qui manifeste l'être? C'est l'un. C'est très curieux, ça. Ça manifeste l'être. Qu'est-ce que c'est que l'un? L'un, c'est ce qui n'est pas divisé. C'est ce qui n'est pas divisé. Dès que quelque chose est divisé, il n'est plus un, il est deux. La division divise ce qui est capable d'être divisé. La division met la dualité. La division, c'est l'opération très fondamentale du vécu. L'intelligence divise, c'est très très curieux ça. Et l'intelligence aime de diviser. T'as qu'à réfléchir. On divise. On divise les partis politiques, on divise dans la communauté les clans, on divise tout, on divise. Et on est à l'aise que quand on divise, on aime de diviser. Parce que par la division, on s'affirme. On domine. On divise. L'un, c'est ce qui résiste à la division. Je peux pas le diviser. Ça résiste à la division. Ça les dents dures. C'est ça, l'un. C'est ce qui résiste à l'indivisible. C'est l'indivisible. Or, vous voyez que pour préciser ce que c'est que l'un, vous êtes obligé de vous servir de la négation. Ce qui n'est pas divisé. Tandis que l'être, il s'exprime tout de suite par lui-même. Ah, vous inventez bien, je dis bien, vous inventez bien le non-être pour exprimer l'être. Vous voyez, vous vous servez de la négation. Ici, c'est plus la division, c'est la négation pour exprimer l'être. Mais le non-être exprime moins bien l'être que l'un. Puisque le non-être n'existe pas, tandis que l'un existe. Vous exprimez ce qu'est l'être par la négation de la division. Ce qui est, c'est le non-divisé. Alors là, il y a quelque chose de très important pour nous, de voir que, de fait, au point de vue de l'intelligibilité, l'être et l'un ont la même intelligibilité, mais de deux manières différentes. L'une est première, l'autre est seconde. Puisque l'un présuppose toujours l'être, puisque c'est le non divisé. Or, la négation présuppose toujours l'affirmation. Vous voyez donc que quand vous mettez l'un avant l'être, vous mettez la négation avant l'affirmation. Vous mettez le vécu, puisque la négation c'est toujours du vécu. Vous mettez le vécu avant son fondement. C'est en ce sens-là que Platon et le néoplatonisme sont source de toute la phénoménologie, du primat du vécu. Il y a une ligne de crête à travers toute la philosophie. Et à l'autre aspect, celui qui ceux qui, dans un réalisme radical, disent non, l'un est second. Mais du côté de l'intelligibilité, ils sont coextensibles. Ils sont convertibles. Alors vous avez là le passage des deux, c'est pour ça qu'au point de vue critique, le problème de l'un et le problème de l'être, c'est quelque chose de fondamental. Sur la crête, vous voyez, sur la crête, je mets le convertible avec l'être. Et je mets la propriété de ce qui est. Quand Aristote fait ça, il reconnaît ce qu'il y a de juste dans Platon. L'un est convertible avec l'être. Legeta et Polakos. Il se dit de multiples manières. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, on comprend très bien que l'un est dans une connaturalité plus profonde avec mon intelligence que l'être. Attention quand je dis ça, hein. Attention. Et que d'autre part, l'être a une profondeur plus grande que l'un. Alors quand je dis que l'un a une connaturalité plus profonde avec mon intelligence, faisons attention. Parce que saint Thomas dit, primo cadit in intellectus, ens, il ne dit pas un. Primo cadit in intellectus. Ah, alors, comment saint Thomas peut-il dire, à la suite d'Avicenne, comment peut-il dire primo cadit in intellectus, ens? Il dit cadit. Alors je crois que c'est là où il faudrait préciser exactement. C'est vrai que c'est l'être qui est premier dans l'affirmation. Mais est-ce que l'un, d'une certaine manière, n'est pas dans une plus grande connaturalité avec la négation? Oui, alors on retrouve affirmation et négation avec être et un. Or, la négation a pour moi cet avantage. C'est quand je nie, je m'affirme. Et quand j'affirme, je ne dis pas que je me nie. Mais quand j'affirme, je laisse l'autre passer devant moi. Quand je dis ceci et je laisse l'être passer devant ma pensée. C'est pour ça que c'est très simple, le jugement d'existence. Et quand l'intelligence est dans un état d'orgueil, elle n'arrive pas à poser le jugement d'existence. Pourquoi c'est si difficile de retrouver le jugement d'existence? C'est parce qu'il faut que l'intelligence accepte que l'être passe devant. Et dans un état d'orgueil, c'est pas commode du tout. Or, l'idéalisme a mis dans un état d'orgueil le primat de ce que je connais, du vécu. Ce qui m'intéresse, c'est le vécu. C'est ce que je connais. Ce qui est, ça n'a aucune importance, je ne le connais pas. N'existe que ce que je connais. Pour moi, c'est juste. Vous voyez, l'être pour soi. Cette petite expression « l'être pour soi » qui vient de Hegel, hein, et que Sartre a repris. L'être pour soi, c'est la conscience. N'existe que ce qui est pour moi. Tout ce qui n'est pas pour moi, mais n'existe pas. Ça n'existe pas pour moi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne le connais pas, donc ça n'existe pas pour moi. Vous voyez, cette chose très très curieuse. Là, il faut creuser, parce que c'est très important de saisir ça. C'est le problème de l'un et de l'être. C'est pour ça que c'est très important, ce problème de l'un et de l'être. Parce que là, on est tout de suite en face de quelque chose d'extrêmement profond. On pourrait dire, vous voyez, que l'un, c'est l'être vécu par moi, ou vécu pour moi. Parce que je rejoins par la négation qui n'est pas divisible. Donc on peut dire que du côté subjectif, l'apport subjectif, du côté subjectif, l'un est premier. Et du côté objectif, l'être est premier. Alors, on touche là quelque chose de très très important. Poussons un tout petit peu. Ne regardons plus les Grecs. Regardons la philosophie moderne. La philosophie moderne commence avec Descartes. Du moins, officiellement. La philosophie moderne commence avec Descartes. Qu'est-ce que fait Descartes ? Cogito ergo sum. Il met le cogito avant l'être. Et Descartes dit textuellement, ne l'oubliez jamais, quand il compare sa philosophie à la philosophie d'Aristote, il le dit explicitement. Aristote met le eis, esti, en premier et le ti, esti, en second. Existe-t-il ? Ceci existe-t-il ? Ceci existe-t-il ? S'il est, et le tiesti, qu'est-ce ? Avant de se poser le tiesti, qu'est-ce ? Il faut savoir que cela existe. Ça semble du bon sens. Hein ? Me poser la question, qu'est-ce que c'est si ça n'existe pas ? C'est la montagne d'or, comme disaient les scolastiques. Hein ? La montagne d'or n'existe pas, donc ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'elle est. Si elle existait, ça m'intéresserait beaucoup. Mais comme c'est un fantasme, c'est un être de raison, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'elle est. Donc, Descartes dit inversons. Le tiesti est premier, il faut mettre ça en rouge. Il n'y a pas de rouge. Il faut mettre ça en rouge, Descartes. Parce que c'est le grand révolutionnaire. Hein. Alors, il met ça premier. Et le tour est joué. À partir de là, tout est inversé. C'est extraordinaire, ça. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Si vous mettez le SST, jugement d'existence, ceci est. C'est de savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Ceci est. Et puis après, qu'est-ce ? Ça vient en second. Descartes dit l'inverse. Parce que pour Descartes, le concept s'est transformé en idée. Et donc, c'est les idées innées. C'est premier. C'est ce qui est dans mon intelligence qui est premier. C'est le vécu intellectuel qui est premier. Et c'est le vécu intellectuel qui est en premier. Je dois me demander si ce vécu intellectuel existe ou n'existe pas. Donc, c'est important de saisir cela. Alors, avec Descartes, on est en présence, comme on dira, d'une métaphysique de l'esprit. Puisque c'est le vécu intellectuel qui est premier. L'être est donc revêtu de l'esprit, en premier lieu. C'est la philosophie de l'esprit. Ce n'est plus la philosophie de l'être. Ce n'est plus la philosophie de l'un et du bien. C'est la philosophie de l'esprit. C'est une métaphysique de l'immanence de ce qui est pensé. Cogito. C'est le cogito qui est premier. C'est un sacré toupet, hein, c'est-à-dire ça. Ça, c'est extraordinaire, c'est quand on y pense. Mais que cogito, c'est ce que je pense qui est premier, quand même, quoi. C'est ce que je pense qui est premier. Le reste, non, non, c'est second. Et on a tous répété ça. C'est extraordinaire, hein. De voir ça. Primauté du vécu que quand je donnais pas 6 mètres, il récupère l'être. Mais l'être récupéré par le cogito n'est plus l'être sauvage, comme dira Merleau-Ponty. Merleau-Ponty est le féen dans le sérail de la Sorbonne, et le premier qui dit ouvertement « Non, je ne peux pas être cartésien, il y a l'être sauvage. » C'est très extraordinaire. Il a dit ça grâce, je crois, à Heidegger. Sous l'influence Heidegger. Et donc il y a quelque chose avant le cogito, l'être sauvage, jugement d'existence. Ça, c'est le second Merleau-Ponty, parce que le premier était entièrement dans la perspective de Descartes. C'est très intéressant de redécouvrir l'être sauvage, c'est-à-dire l'au-delà du léguétail. Le léguétail, c'est l'être bien habillé. Il a la redingote de l'intelligence. Très bien habillé. L'être bien habillé, c'est le léguétail. C'est l'être vécu par l'intelligence. Et au-delà de l'être vécu par l'intelligence, il y a l'être tout court. Le toanéon. Le toanéon, c'est l'être tout court. C'est l'être sauvage. C'est l'être dans sa pureté d'être. C'est la nudité de l'être, le toanéon. Alors, il n'est plus civilisé, il n'est pas léguétail. Léguétail, il est très bien habillé. Il est habillé par l'intelligence, il est le cogito. Il est le fruit du cogito, il est dans le cogito. Sa petite maison, c'est le cogito. Tandis qu'on découvre l'être sauvage, le toanéon. C'est très beau de redécouvrir ça. Et à partir de là, on comprend la primauté de l'être. Alors, on voit bien que notre philosophie occidentale, c'est une philosophie de l'être et du vécu de l'être. Aristote, le toanéon, toan legetai polakos, les deux formules, tout le temps. À partir de Descartes, le cogito prend tout. Et il faut aller jusqu'à Husserl. Et les disciples d'Husserl s'opposent à Husserl, veulent dépasser Husserl. Et prenez les méditations de Husserl sur le cogito de Descartes. Les méditations cartésiennes de Husserl, c'est très important. Parce qu'on voit jusqu'où va Descartes, partant la phénoménologie. Il y a une continuité de Descartes à Husserl. Et puis les disciples de Husserl, deux grands disciples de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, qui disent non. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Alors on revient à Parménide, l'être. On revient à l'être sauvage. C'est fatigant, l'être civilisé. L'être habité par l'intelligence n'est plus l'être. Je ne le découvre plus dans toute sa force. Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, troisième position, parce que c'est toujours intéressant, celle que posait le père Dubarle dans sa dernière année à l'Institut catholique. Est-ce qu'on ne peut pas faire une nouvelle métaphysique qui fasse la synthèse de ces deux aspects? Aristote, Descartes. Parce que le père Dubarle est suffisamment aristotélicien et il aime beaucoup Descartes et Heidegger et Hegel. Et il dit ouvertement, je l'ai entendu dire, Hegel, on ne peut pas le critiquer. C'est un tel génie qu'on ne peut pas le critiquer. Donc, on est en face de deux absolus. L'absolu aristotélicien du toanéon et l'absolu cartésien du cogito, de l'esprit. En gros, deux métaphysiques. Métaphysique philosophique de l'Occident. Dépasser cette dualité philosophie de l'être, philosophie de l'esprit. Alors ajoutons, parce que je crois qu'il faut ajouter la philosophie du bien. On a la métaphysique, l'éthique et le logos. Parce que c'est peut-être cela qu'a oublié le père du marbre. Vous savez, quand on veut faire des synthèses, il faut quelquefois regarder un troisième. Les psychologues savent très bien ça. La position triangulaire est toujours la plus difficile. Et quand vous êtes en face l'un de l'autre, c'est le duel de deux chiens. Lequel mangera la queue du dernier, hein? Pour qu'il ne reste plus rien. Parce que quand on est à deux, on lutte. Alors quand il y a un troisième larron, c'est différent. Vous voyez ? Pour bien voir l'opposition être-esprit. Je crois que la solution, c'est le bien. Vous allez comprendre. Je crois que la solution, c'est le bien. Parce que l'être, philosophie première, le bien, éthique. Je crois qu'on a oublié beaucoup trop que c'était indispensable, ces deux. Ce que saint Thomas a dit avec force, on a oublié ça. Saint Thomas nous dit que l'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité et le bien est premier dans l'ordre de l'exercice et de la causalité. Si on avait compris ça, on aurait compris que l'être n'est pas premier d'une manière absolue. Pourquoi ? Parce que l'être est saisi d'une manière analogique. Et donc, il faut avoir recours au bien. Si on a recours au bien, on découvre la finalité. On découvre quelque chose qui est, d'une certaine manière, pour moi. Pour moi, l'être pour moi. Quelque chose qui est au-delà de l'être, qui est le bien. Et que l'esprit, c'est ce qui va faire le lien entre le bien et l'être. L'esprit est dépendant de l'esprit. Regarde l'être par l'intelligence. Et l'esprit regarde le bien par la volonté. L'esprit, c'est pas uniquement l'intelligence. C'est l'intelligence et le bien. C'est l'intelligence et la volonté. Et donc, une métaphysique de l'esprit, attention, ça ne signifie rien. Puisque l'esprit est relatif à l'être, donc il n'est pas premier. Et l'esprit est dépendant du bien, il n'est pas premier. Par le bien, je découvre que nécessairement, mon bonheur est au-delà de moi. Et donc, il ne peut pas y avoir une métaphysique de l'esprit. Alors je peux le dire d'une façon beaucoup plus nette, c'est que mon esprit est participé, il n'est pas substantiel. Seul mon être est ma substance. Et donc il ne peut pas y avoir une métaphysique de l'esprit, c'est impossible. Je ne peux découvrir une métaphysique de l'esprit qu'en confondant l'intelligibilité, l'intentionnel et le réel. L'intentionnel n'implique pas d'aspect substantiel puisqu'il est second. Et tout ce que mon esprit connaît, il le connaît intentionnellement. Le vécu est de l'ordre intentionnel. Il n'est pas ce qui est.